VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 décembre 2015, en direct de Washington, Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Tout d'abord, les titres.
Premier tour des élections générales en Centrafrique aujourd'hui.
Les 40 observateurs de l'Union africaine ont été déployés dans les 16 préfectures. Et à l'heure où je vous parle, tous les observateurs sont déjà sur le terrain.
Roch Kabore a prêté serment comme nouveau président du Burkina Faso.
L'état d'urgence est maintenu pour les fêtes au Mali.
Ce n'est pas du tout pour restreindre les libertés des populations, mais c'est plutôt pour contribuer à mieux les sécuriser.
Aux États-Unis, un policier blanc a plaidé non coupable du meurtre d'un adolescent noir qu'il avait criblé de balles.
Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Élections présidentielles et législatives en République centrafricaine. 2 millions d'électeurs sont attendus ce matin aux urnes pour élire un nouveau président ainsi que 149 parlementaires. Ce scrutin est très attendu après de nombreux reports. 30 candidats sont en lice pour le premier tour de la présidentielle. Mais petite particularité, aucun des trois derniers présidents n'est candidat. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman.
Selon le code électoral, les bureaux de vote s'ouvrent ce mercredi à 6h du matin pour fermer 10h plus tard. 30 candidats, dont une femme, sont dans la course à la présidentielle et plus de 1600 autres aux législatives. 48 heures bien avant la tenue de cette échéance cruciale pour le pays, dirigée depuis plus de 2 années par un gouvernement de transition, l'autorité nationale des élections a annoncé que tout le matériel électoral était déjà disponible dans les centres de vote de Bangui et de l'intérieur du pays. La grosse difficulté à gérer aujourd'hui dans les bureaux de vote, le problème des cartes électorales. Jusqu'à la veille du scrutin, de nombreux électeurs n'avaient pas encore reçu leurs cartes. Autre difficulté liée à cette situation, les rumeurs de vente des cartes d'électeurs dans certains coins de la capitale, ce qui alerte une partie des candidats, pointant déjà du doigt des manœuvres visant à frauder. Avec le renforcement du dispositif sécuritaire, on doit s'attendre à un taux de participation plus élevé que les 38% du vote référendaire, a annoncé le porte-parole de l'autorité nationale des élections. Fluency Pila, Bangui, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, Roch Marc-Christian Kabore a prêté serment hier comme 9e président du Burkina Faso, mettant fin au régime de transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Le nouveau président a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté. Les réactions dans les rues de Ouagadougou en seconde partie de cette édition.
En République démocratique du Congo, l'Église catholique est inquiète d'une possible impasse autour du processus électoral. Elle a entamé hier des consultations pour faciliter le dialogue entre acteurs politiques. Plus de détails avec Eddy Isango.
Une délégation des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, a rencontré Aubin Minako, les présidents de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la coalition des partis qui soutiennent les présidents Joseph Kabila. Ils ont par la suite discuté avec des représentants de l'opposition. Les évêques insistent que toute discussion pour éviter les blocages du processus électoral s'efface dans la perspective du respect de la Constitution, a déclaré l'abbé Léonard Santédi, secrétaire général de la CENCO. Les mandats du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001 s'achèvent fin décembre 2016 et la Constitution ne l'autorise pas à embriguer un autre. M. Kabila a convoqué un dialogue auquel l'opposition refuse de participer, les soupçonnant de vouloir se maintenir au pouvoir.
Nous restons en République démocratique du Congo. Le général sud-africain Derrick Mbembe est nommé à la tête de force de maintien de la paix en RDC. L'officier sud-africain remplace à ce poste le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, dont le mandat de 2 ans est arrivé à son terme au début du mois. Morgane Guerriec.
Le général Derrick Mbembe dirigera le contingent de 20 000 militaires que compte la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, la plus importante dans le monde au regard de son personnel. Selon le communiqué annonçant sa nomination, le général Derrick Mbembe, 59 ans, affiche une expérience militaire nationale et internationale de plus de 35 ans. Le général sud-africain doit prendre les commandes de la force onusienne, alors que celle-ci accroît actuellement la pression sur les groupes de rebelles dans l'est du pays, où des élections sont prévues l'an prochain. Un regain de tension est en effet sensible en amont du scrutin de novembre 2016, alimenté par les craintes que le président, depuis 2001, Joseph Kabila, pourrait tenter de modifier la constitution pour rester au pouvoir.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité dans le reste du monde, après la reconquête de Ramadi, les autorités irakiennes y ont déployé des centaines de combattants sunnites, une stratégie qui devrait leur permettre de garder et gouverner cette ville où les musulmans sunnites sont majoritaires. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Ce n'est que le début d'une opération qui s'annonce plutôt longue et difficile après la reprise de cette ville stratégique située à l'ouest de Bagdad. Le groupe État islamique a laissé derrière lui des centaines d'engins explosifs qu'il va falloir désamorcer. Et il faudra aussi convaincre la population, sévèrement réduite par la guerre, de ne pas céder à la tentation djihadiste. Le premier souci du gouvernement, c'est donc un retour éventuel de Daesh, qui occupait la capitale de la province d'Al-Anbar depuis mai dernier, avant d'en être chassé par les forces irakiennes et leurs alliés, avec l'appui aérien des États-Unis. C'est dans cette perspective que 500 membres de tribus sunnites sont arrivés dans le nord de Ramadi pour contrôler les zones libérées, a indiqué le général Ismail Mahalawi, qui dirige les opérations dans la province. Ces combattants, indique l'AFP, font partie de la Mobilisation populaire, une organisation paramilitaire placée sous le commandement du Premier ministre Haider al-Abadi. Monsieur Abadi a visité Ramadi hier pour féliciter ses troupes, mais il est conscient du défi. Il faut combattre le confessionnalisme violent, la mauvaise gouvernance et la corruption qui ont permis l'implantation du groupe État islamique, a-t-il fait remarquer.
Selon le Pentagone, le djihadiste français Sharaf El-Mouadan, dont les États-Unis ont annoncé la mort hier en Syrie, était proche d'au moins un des kamikazes auteurs des sanglants attentats du 13 novembre à Paris, Sami Amimour. D'après les Américains, il préparait activement d'autres attaques pour le compte du groupe État islamique.
Toujours en Syrie, l'Alliance des forces démocratiques de la Syrie, composée d'une milice kurde et de groupes arabes syriens, ont repris plus d'une vingtaine de villages et le barrage hydroélectrique de Tishrin au groupe État islamique. Selon un responsable du Pentagone, ce barrage sur l'Euphrate, situé à 90 km à l'est d'Alep, était une installation clé pour Daesh.
Ici aux États-Unis, Jason Van Dyke, un policier blanc de Chicago, a plaidé non coupable au meurtre de Laquan McDonald, un adolescent qu'il avait criblé de 16 balles en octobre 2014. Les précisions de Nanit Talani.
La comparution mardi de Van Dyke est intervenue dans un contexte très sensible qui connaît une hausse de critiques à l'encontre de la police de Chicago accusée d'abus et de discrimination raciale. En novembre, cet agent avait été inculpé de meurtre avec préméditation, une accusation rare aux États-Unis pour un policier. La vidéo du meurtre de Laquan McDonald avait montré Van Dyke criblant froidement l'adolescent de 16 balles alors que ce dernier ne présentait aucun danger. Cet homicide avait suscité une vague d'indignation, de protestation et de colère, ayant même entraîné le renvoi de Gary McCarthy, le chef de la police de Chicago. Accusé d'avoir voulu étouffer le scandale lié au meurtre, le maire de cette ville, Rahm Emanuel, est sur la sellette. Pas plus tard que samedi dernier, un noir de 19 ans et sa voisine, mère de 5 enfants, ont été froidement abattus par les forces de l'ordre de Chicago appelées pour une dispute familiale dans des circonstances non encore élucidées.
À l'approche des fêtes du Nouvel An, le maire de New York se veut rassurant et affirme que toutes les mesures de sécurité ont été prises, notamment grâce à la nouvelle unité de lutte contre le terrorisme, le Critical Response Command, qui compte 500 agents. Plus d'un million de personnes sont attendues le 31 décembre à Times Square, lieu emblématique de New York. Après les attentats du 13 novembre à Paris, qui ont fait 130 morts, une vidéo menaçante du groupe État islamique a montré des images de New York, dont sa célèbre place Times Square. Les autorités avaient alors répondu qu'il n'existait pas de menace crédible contre la ville. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce matin avec Idrissa Sedoudia.
Au Cameroun, le ministère des Travaux publics, avec une enveloppe de 403,9 milliards de francs CFA, se taille la plus grosse part dans la répartition du budget 2016 dont la loi vient d'être promulguée par le président camerounais Paul Biya. Ce département va poursuivre le programme de construction de plusieurs axes routiers et doit en outre faire des projets d'érection d'infrastructures liés à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations, CAN, de football 2016, dames, et 2019, messieurs, rapporte l'agence APA. Toujours selon la même agence, les réformes entreprises en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara depuis son arrivée au pouvoir en avril 2011 ont abouti mi-décembre à l'élection de la Côte d'Ivoire au Millennium Challenge Corporation, un pas supplémentaire vers l'émergence à laquelle le pays aspire à l'horizon 2020. Depuis 2011, la relance économique de la Côte d'Ivoire est en net progrès. La Chine va débourser plus d'1,3 milliard d'euros, soit 850 milliards de francs CFA, pour la rénovation du tronçon malien de la ligne de chemin de fer Bamako-Dakar, une voie stratégique pour les échanges entre le Sénégal et le Mali, mais en mauvais état, a appris l'AFP auprès du ministère malien des Transports.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Idrissa. Place à notre page sport avec John Lyndon. Bonjour John. Et donc, ce matin, au Cameroun, on cherche toujours un entraîneur pour les Lions Indomptables.
Effectivement, un appel à candidature a été lancé par la Fédération camerounaise de football et la presse fait savoir qu'Alain Giresse fait figure de favori alors que Claude Leroy serait out. Nous avons posé la question à Martin Camus-Mimbe. Il est journaliste sportif et directeur de Radio Sport Info à Douala.
Évidemment, Giresse, je peux dire qu'il est rentré contre toute attente parce que Leroy était prédestiné dans les médias à venir au Cameroun puisqu'il avait démissionné de façon fracassante au Congo. Après, Giresse, je ne peux pas non plus dire que c'est un acquis parce qu'il y a derrière également beaucoup de lobbies qui s'affrontent parce que je crois que le candidat de Pouma s'appelle Rajevac et donc le gouvernement est, selon mes informations, absolument un entraîneur français. Et donc, cette bataille de réseau, je crois qu'elle est en train peut-être de s'estomper. On verra d'ici là, mais de toute façon, je dirais que ça a quand même pris une longueur d'avance par rapport à tout ce qui était shortlisté. Et donc là, il y a également un Camerounais du nom de Marius Omok qui, de toute évidence, aussi risque d'être l'adjoint de Giresse. Et comme Omam était pressenti pour être l'adjoint de Claude Leroy, il y a aussi Hervé Renard, Didier Six et Rajevac. Le dernier mot, en tout cas, tout n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de jeux en cours, donc on attend de savoir.
Le Burkina Faso, lui, a déjà choisi son entraîneur de football et c'est Paulo Duarte.
Oui, le technicien portugais de retour va donc retrouver le banc de ses succès. C'est sous sa houlette que les étalons avaient franchi un palier, se qualifiant pour les CAN 2010 et 2012. Le groupe, entièrement façonné par celui qui fut aussi coach du Mans, atteignit la finale de l'édition 2013 sous la direction de Paul Put. Depuis son départ de Ouagadougou, Duarte, âgé de 46 ans, a en revanche collectionné les échecs au Gabon comme en Tunisie.
En Espagne, Benitez se dit victime d'une campagne de presse.
L'entraîneur du Real Madrid, Rafael Benitez, s'est dit mardi victime d'une campagne médiatique visant à le fragiliser, mais a assuré connaître les solutions à la crise du club à la veille d'un match couperet mercredi contre la Real Sociedad en championnat d'Espagne. Fragilisé par plusieurs contre-performances, le technicien madrilène est depuis plusieurs jours au centre de toutes les spéculations de la presse espagnole qui évoque le français Zinedine Zidane comme l'un des favoris à sa succession en cas d'éviction.
Et je termine, John, comme d'habitude, par un petit résumé des matchs de la NBA qui se sont disputés sur les parquets américains hier soir. Les Rockets de Houston se sont inclinés face aux Hawks d'Atlanta 115 à 121. Les Knicks de New York ont battu les Pistons de Détroit 108 à 96. Les Thunder d'Oklahoma City sont venus à bout des Bucks de Milwaukee 131 à 123. Nouvelle défaite pour les Heat de Miami face aux Grizzlies cette fois de Memphis 90 à 99. Et enfin, les Cavaliers de Cleveland sont venus à bout des Nuggets de Denver 93 à 87.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg, toujours avec vous sur VOA Afrique. Nous passons maintenant au dossier du jour. En Centrafrique, plusieurs délégations d'observateurs internationaux ont été déployées sur tout le territoire pour les élections générales qui débutent aujourd'hui. La francophonie, la CEAC, les États-Unis ont envoyé des experts. Seule surprise, l'Union européenne et le Centre Carter, pourtant habitués aux élections sur le continent, ne sont pas représentés. Les 40 observateurs de l'Union africaine sont, eux, bien déployés. À Bangui, notre envoyée spéciale Tatiana Mosso a fait le point avec le chef de la mission de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre sénégalais Souleymane Déné Ndiaye.
On a voté sous le référendum sous les balles. Il a fallu vraiment la fermeté de la MINUSCA pour empêcher ces photos de troubles-là d'avoir raison sur l'ordre constitutionnel ou sur l'ordre tout court. Je pense que les Centrafricains qui organisent ces élections ont pu beaucoup apprendre de leurs erreurs, de sorte que entre la proclamation des résultats du référendum et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été parfaites.
Une question concrète sur le terrain, vous avez 40 observateurs de l'Union africaine qui devraient se déployer. Il y a des zones très compliqué à atteindre en RCA parce qu'il n'y a pas de route parfois, oui. Il n'y a pas forcément une piste pour atterrir.
Voilà.
Est-ce que parmi vos observateurs, certains vont se rendre dans les zones les plus reculées ou vont-ils se contenter d'être dans les grandes villes?
Les 40 observateurs de l'Union africaine ont été déployés dans les 16 préfectures. Et à l'heure où je vous parle, tous les observateurs sont déjà sur le terrain, prêts à faire le travail d'observation qu'on leur a demandé de faire. Avec, bien entendu, le soutien de la MINUSCA. Parce que sans la MINUSCA, rien n'aurait pu se faire.
En résumé, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir que ce scrutin sera acceptable, crédible, après toutes les difficultés qu'on a vues? Quelles sont les grandes clés, les grands points qui font qu'il sera crédible?
Le premier paramètre qui permettra que le soir du scrutin, qu'on puisse dire que le scrutin a été crédible, c'est que les Centrafricains puissent aller voter librement, sans aucune peur au ventre. Deuxième chose, il faut que dans tous les bureaux de vote, que les électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales, détenteurs de leur pièce d'identité, de leur carte d'électeur ou du récépissé accompagné de la carte d'identité, que tout cela puisse voter. En tout cas, si ces deux conditions sont réunies, je pense qu'on pourrait dire que les élections sont déroulées dans une parfaite transparence. Maintenant, vous savez, une élection n'est pas parfaite à 100%, ni en France, ni aux États-Unis. Il y a toujours quelque quoi. Et nous souhaitons qu'il y en ait le moins possible pour que, enfin, la Centrafrique se relève, se sorte la tête de l'eau.
Souleymane Déné Ndiaye, chef de la mission de l'Union africaine en Centrafrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Retour sur la République centrafricaine au lendemain du premier tour de la présidentielle et des législatives. La RCA peut-elle tourner la page? Et dites-nous ce qui vous a marqué en 2015 et ce que réserve 2016 pour le monde, l'Afrique en particulier. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h TU.
Au Mali, l'état d'urgence décrété par les autorités est toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas sans conséquence sur les habitants. Reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Dans un communiqué radio, le commandant du théâtre des opérations Maliba informe les populations de Gao que les manifestations publiques et les feux d'artifice sont formellement interdits du 22 au 31 décembre en application des dispositions de l'état d'urgence. Le chef d'état-major général des armées de passage à Gao nous explique pourquoi cette disposition. Le général Maman Touré.
Pourquoi l'état d'urgence en cette période de fin d'année? Il y a eu des messages, il y a eu des informations inquiétantes. Lorsqu'on sait ce qui s'est passé dernièrement dans la ville de Bamako, lorsqu'on sait ce qui s'est passé à Sévaré, lorsqu'on sait ce qui s'est passé à Paris, lorsque vous êtes informé, vous prenez des dispositions. Ce n'est pas du tout pour restreindre les libertés des populations, mais c'est plutôt pour contribuer à mieux les sécuriser.
Depuis cette date, les activités sont réduites, comme le témoignent les personnes interrogées dans la ville de Gao.
DJ Izé, j'anime à Bel Air annexe à la grotte. Dès qu'ils ont annoncé l'affaire de l'état d'urgence, rien ne marche depuis. Oui, au niveau de la boîte, on a même fermé, hein. Ça ne marche plus. Personne ne part pas là-bas. Nous comptons totalement pour bien donner le 1er janvier, Inch'Allah.
C'est DJ Isaac Morco, DJ de Balani. La journée du 8h à 18h, souvent on gagne 25 000 francs et 50 000. Surtout si à la Hanana, le jour même que le jeune mari et même va s'installer. Demain aussi, les filles vont porter l'uniforme.
Et tout ça maintenant, c'est fini?
C'est fini comme ça. Depuis qu'ils ont annoncé le truc, donc ça nous a choqué vraiment. Parce que vraiment, on ne sait pas quoi faire. Donc on va lui porter les animations jusqu'à à la fin de l'état d'urgence. Al-Qaïda, là, c'est partout. Malgré que nous sommes en souffrance, hein, mais vraiment, c'est bon.
L'objectif visé par les organisateurs de la semaine artistique et culturelle au niveau des écoles dans le cadre du retour de la paix a été amoindri du fait de l'état d'urgence. Boubacar Al-Bachar, conseiller au centre d'animation pédagogique Cap de Gao.
Pour que la sensibilisation puisse gagner les parents même, l'UNICEF a voulu réellement, à travers l'éducation, l'académie et les Cap, organiser vraiment une semaine artistique et culturelle interscolaire. L'état d'urgence nous a un peu freinés. Sans quoi, on aurait dû faire une grande fête à la Maison des Arts et de la Culture où tout le monde se regroupait. Mais l'état d'urgence a fait que vraiment notre objectif a été un peu amoindri parce qu'on était obligé de passer école par école, faire ces manifestations dans des situations qui ne sont pas réellement adéquates.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Faso, la cérémonie d'investiture du président Roch Kabore a eu lieu hier à Ouagadougou. Notre correspondant Issa Napon a pu recueillir quelques réactions.
C'est le sentiment de joie, le sentiment de fierté pour la longue lutte que le peuple burkinabé a entrepris. Et qu'aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette lutte-là victorieuse. Je voudrais vraiment saluer la grandeur de ce peuple burkinabé qui a su retrouver des ressources nécessaires pour qu'aujourd'hui, nous puissions arriver à cette cérémonie solennelle. Je crois pouvoir dire que c'est un discours qui cadre vraiment avec son programme de société et un discours qui s'inscrit dans la nouvelle vision du peuple burkinabé.
Je crois qu'il a dit exactement ce que tout le monde attendait. C'est-à-dire qu'il s'engage, il a pris des engagements à faire en sorte qu'on progresse dans la voie de la démocratie, de la liberté et qu'il tiendra compte de tout le monde. Il a cité toutes les catégories sociales et socio-professionnelles du Burkina Faso. Je pense que c'était très important que tout le monde se reconnaisse en lui comme le président du Faso. Il n'est plus un président d'un parti politique, mais c'est le président de tous les Burkinabés.
Je crois que c'est une belle investiture. C'est le couronnement d'une démarche qui a été très difficile, mais qui a abouti à quelque chose d'exceptionnel. Je crois que l'investiture que nous avons vue aujourd'hui est un signe que le Burkina ira de l'avant. Et nous avons tous la conviction que les bases sont posées.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En Guinée, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré officiellement hier la fin de l'épidémie Ebola. L'annonce a été accueillie dans la joie et l'espoir dans la capitale. Reportage à Conakry de notre correspondant Zakaria Camara.
Dena Onare, Ebola, la Guinée, la Ni. Giancarlo Mento, Ebola, Baraban, la Guinée.
Ebola free, fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. L'annonce est faite dans les principales langues du pays par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé.
Ce 29 décembre 2015, 42 jours se sont écoulés depuis que le nouveau-né et dernier cas confirmé d'Ebola est sorti guéri de l'unité de traitement de la maladie à Nongo. Le critère établi par l'Organisation l'Organisation mondiale de la santé pour déclarer la fin de toute transmission connue du virus Ebola en Guinée est donc remplie.
C'est le soulagement en Guinée, mais Mohamed Bellucine recommande la prudence.
Nous savons que le virus est redoutable et capable de résurgence. L'histoire récente dans un pays voisin est venue nous le rappeler. Encore 90 jours de surveillance épidémiologique renforcée. Le maintien d'une capacité d'investigation solide.
Ebola déclaré free en Guinée. Il faut maintenant renforcer les mesures et dispositifs de prévention, a annoncé à son tour le docteur Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
Nous devons entreprendre la poursuite de cette vaccination à partir du mois de janvier pour les contacts des personnes guéries qui n'ont pas bénéficié de ces séances de vaccination.
C'est en décembre 2013 que les premiers cas sont signalés dans le sud du pays. Deux ans après, on compte plus de 2500 morts pour près de 4000 cas recensés. Dans les rues de la capitale, on exprime toute sa joie.
Je crois que c'est un ouf de soulagement qu'Ebola soit parti. Bien, merci.
Donc, à chaque fois qu'on partait déposer des CV pour chercher de travail, on dit que c'est fermé pour le moment à cause de Ebola. Je suis vraiment content du fait que maintenant, tout va maintenant marcher.
J'espère que les autorités prendront toutes les mesures nécessaires afin de prévenir ce genre de maladie.
Ça va encore permettre à nos parents, à nos familles, à nos proches de pouvoir voyager à l'étranger.
Mercredi, le président Alpha Condé offre un bye-bye show, un concert géant à Conakry pour célébrer la fin de l'épidémie. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, sur décision du gouvernement, les entreprises de communication lancent l'opération d'identification des abonnés qui doivent désormais venir remplir un formulaire afin de s'enregistrer. D'où de nombreuses files d'attente devant les magasins de téléphonie de Lubumbashi, comme l'a constaté notre correspondant Narval Mabila.
Vraiment, la loi, son numéro doit être identifié. Prieur, vous enregistrez immédiatement au shop Airtel le plus proche, sinon vos appels seront suspendus.
Ce message qui avertissait et passait à exécution est à la base des attroupements des hommes et des femmes, militaires et policiers, constatés devant le shop des entreprises de communication dans la ville de Lubumbashi. Pour certains, le choix, ils ont été bien avertis, et d'autres, c'est une surprise du fait de la suspension des appels et messages. Voici quelques réaction.
Si je suis là, c'est pour me faire enregistrer parce que depuis avant-hier, on a constaté que la plupart des habitants de notre province, leurs appels sont suspendus. Nous sommes là pour se faire enregistrer. Non, il n'y avait pas un communiqué qui était passé à la télé, mais on avait quand même reçu des SMS de la part du service à notre forme. J'ai entendu parler de la part des gens en train de dire que ça peut être des élections.
Bon, selon les messages qu'on a envoyés par le téléphone qui dit que le gouvernement congolais s'est décidé que chaque personne se enregistre. Pour cela, nous sommes aussi venus se enregistrer.
À ma grande surprise, c'est toute une foule qui est là. Pour moi, je m'étais déjà identifié parce que j'avais payé ma carte SIM dans une cabine et ils m'avaient donné des papiers, je m'étais enregistré. Curieusement, aujourd'hui, j'ai reçu un message hier et aujourd'hui encore, j'ai reçu un autre message disant que non, je ne pouvais plus émettre les appels à part recevoir. Mais c'est quelque chose qui est allé trop vite.
Les rumeurs dans la ville font état d'un contrôle accentué de la communication, des SMS et des réseaux sociaux de la part du gouvernement en 2016 par les biais des services de sécurité. Pour le chef de travaux Maurice Kitoko du département des sciences de l'information et de la communication à l'université de Lubumbashi, l'identification est une bonne chose que les politiques peuvent s'en servir.
Si je compare d'autres pays aux nôtres, dans beaucoup de pays, surtout occidentaux, tu peux avoir une SIM qui n'est pas identifiée. Au point de vue sécuritaire, c'est intéressant parce que si quelqu'un raconte une bêtise, c'est plus facile de le suivre et de l'identifier. Et j'ai même vu des fois, on peut suivre les appels téléphoniques de quelqu'un jusqu'à déboucher au criminel. Oui, commence une action comme ça, c'est que la politique veut. Ouais, se saisir du dossier pour commencer à traquer les gens qui ne sont pas de son obédience. Du point de vue de la communication ici dans notre pays, c'est la politique qui gère. On a eu une période ici sans Internet dans la ville, sans Facebook dans la ville, tout avait été bloqué parce que on ne voudrait pas que les gens s'expriment sur certains faits. Je crois que c'est dans la même vision, dans la même voie où on nous demande de nous faire identifier pour nous filer aussi, pour savoir ce que nous faisons avec qui nous communiquons.
L'identification est appréciée par plus d'un louchois, dont certains restent sceptiques. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina,
et Ali Kassi.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Anne Alberson était à la réalisation. John Ellison était à la console. Présentation Claire Morin-Gibourg et Anne Alberson. Ainsi va le monde aujourd'hui. Restez informés 24h sur 24 grâce à notre site internet voafrique.com et grâce à notre page Facebook. Très bonne journée à l'écoute de nos programmes.